Notre invité est réalisateur, il est également auteur de différents livres. Bonjour Michael Prazan.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez sorti un dernier ouvrage qui s'appelle « La vérité sur le Hamas et ses idiots utiles » aux éditions L'Observatoire. Peut-être avant, je vous ai présenté un peu rapidement. Vous pouvez un peu nous parler de vous ?
Vous me prenez un peu à froid, mais...
Question difficile.
Ça fait maintenant de nombreuses années que je multiplie les documentaires en tant que réalisateur et auteur pour la télé. J'en ai beaucoup fait sur la Seconde Guerre mondiale, sur l'islamisme, sur le terrorisme. Et j'ai par ailleurs une activité aussi journalistique et puis d'écrivain avec des romans et des essais, souvent d'ailleurs consacrés au même sujet que j'ai pu traiter en livre, notamment sur les Einsatzgruppen, les commandos mobiles de tuerie nazis, les frères musulmans, et voilà, la liste est assez longue.
Soit vous êtes aussi un spécialiste de l'Ukraine et des États-Unis en même temps.
Pardon ?
Vous êtes spécialiste de l'Ukraine et des États-Unis en même temps.
Spécialiste, c'est beaucoup dire, ouais. Je connais bien ces deux pays, en effet.
Alors, votre livre s'appelle « La vérité sur le Hamas et ses idiots utiles ». Le démarrage de ce livre, c'est le 7 octobre.
Oui, ça a été évidemment pour moi, comme pour, j'imagine, beaucoup de juifs, et j'espère peut-être un peu plus de personnes qui ne seraient pas juives, un événement marquant, fondamental, traumatique. Et j'ai voulu évidemment repartir de ce point de départ pour à la fois relire les entretiens que j'avais réalisés avec des membres du Hamas, et notamment l'un d'entre eux qui est l'un de ses fondateurs, qui s'appelle Mahmoud Al-Zahar, et un membre du djihad islamique palestinien qui aujourd'hui en est le chef, et qui s'appelle Khaled Al-Bach, que j'avais rencontré en 2010 à Gaza, où j'avais passé quelques jours. Et les relire à l'aune de ce qui s'est passé le 7 octobre me semblait pertinent, digne d'intérêt. Et aussi, j'avais envie d'expliquer ce que c'est que le Hamas. Parce que le lendemain du 7 octobre, j'ai entendu beaucoup de déclarations qui témoignaient du fait que les gens ne savent pas de quoi il s'agit.
On va en parler largement. Ce qui est marrant,
c'est... J'ai consacré la première partie de mon livre au Hamas proprement dit. De manière assez succincte, mais je crois très très lisible et très claire. Et la deuxième partie, c'est un peu un compte rendu de l'année terrible que nous avons vécue au lendemain du 7 octobre, et notamment via ces idiots utiles. Je rappelle que les idiots utiles, c'est un mot qu'on attribue à Lénine, qui désignait en son temps les intellectuels, les compagnons de route du Parti communiste qui, en Occident, relayait la propagande de l'URSS et ses mensonges. Aujourd'hui, on est dans un autre cadre, mais il y a toujours des idiots utiles qui relaient les mensonges et la propagande.
On va aussi en parler. La petite histoire dans la grande histoire, c'est que vous avez réalisé ces interviews le jour de Kippour, me semble-t-il.
Oui, c'était une période très particulière. D'ailleurs, j'étais censé, en fait, entrer à Gaza et en repartir le soir même après avoir réalisé mes interviews, mais... durant cette année-là, effectivement, Gaza avait été fermé durant 4 ou 5 jours parce qu'il y avait Kippour et Rosh Hashanah qui s'enchaînaient. Et du coup, je suis resté près d'une semaine à Gaza, ce qui a été aussi très intéressant et très instructif.
Alors, on parle évidemment de 7 octobre et de Gaza. Vous l'avez dit, vous commencez par des interviews de responsables de ces deux mouvement terroriste, et dès le départ, on vous dit la vérité, en tout cas, on parle de façon très crue, il n'y a pas de fumée, on va dire, on vous dit franchement que le Hamas a été créé pour tuer des Juifs.
Oui, alors j'essaie aussi de remettre le Hamas dans un contexte à la fois historique et idéologique, parce que les gens ne le savent pas toujours, mais le Hamas, c'est la branche palestinienne des frères musulmans. Il me fallait aussi expliquer quelle est cette source, qu'est le frérisme, la confrérie des frères musulmans, née en Égypte en 1928, donc un parti politique fondamentaliste, islamiste, avec évidemment des extensions terroristes via une organisation secrète dès la fondation qui s'appelle l'Appareil Secret. Et j'essaie d'expliquer aussi quels sont ses buts. Ses buts, évidemment, c'est la reconstitution d'un califat islamique qui irait du Maroc au Pakistan et dans lequel, évidemment, un État juif est absolument insupportable et une hérésie. Et à terme, très long cours, la propagation de cette idéologie au monde entier au vu de créer un califat mondial, c'est-à-dire l'islamisation du monde. Voilà en gros quel est le programme.
Voilà. Vous écrivez aussi un article sur l'influence iranienne, et là vous dites il faut arrêter quoi.
L'influence iranienne, elle est fondamentale. J'explique aussi quels sont les liens très anciens entre les frères musulmans et la République islamique d'Iran. Et évidemment, le point de focalisation central que représente pour eux la Palestine, non pas en termes d'ailleurs spécifiquement nationaliste palestinien, parce que il faut quand même dire que le Hamas n'est absolument pas un mouvement nationaliste palestinien, mais pour son combat à la fois contre les Juifs et contre l'Occident. Voilà.
D'accord, c'est les deux, c'est-à-dire c'est les Juifs et l'Occident.
Les frères musulmans ont une vision malheureusement qui s'est répandue dans bien des secteurs du monde arabo-musulman. Ils sont convaincus que l'Occident est dominé par les Juifs, et donc évidemment en frappant les Juifs, on frappe l'Occident. C'est ainsi qu'ils voient les choses et les grands rapports de force qui existent dans le monde.
Michael Frazan, on a un débat en ce moment en France qui parle du racisme anti-blanc. Vous êtes de quel côté ?
Écoutez, je ne m'attendais pas tellement à cette question. Oui. Tout racisme est condamnable. Il est évident qu'il existe un racisme anti-blanc, une haine de la France dans certains secteurs de la population, et pas seulement d'ailleurs des populations d'origine immigrée ou musulmane. Il y a un ressentiment, une haine de soi dans certains cas. C'est absolument indéniable. Maintenant, évidemment, l'histoire du racisme n'est pas celle-ci. Il y a quand même aussi, concernant un certain nombre de populations issues d'Afrique, une histoire beaucoup plus violente et beaucoup plus ancienne qu'on ne peut pas non plus balayer d'un revers de la main quand les victimes de ce racisme ou des cibles de ce racisme sont issues de ce que la grande époque du racisme à partir de la fin du 19e siècle prétendait qu'un certain nombre de catégories humaines étaient inférieures aux blancs. Donc j'ai une vision un peu nuancée de tout cela, mais enfin, le racisme anti-blanc, au même titre que n'importe quel autre racisme, est condamnable.
Mais il existe ?
Et il existe.
Et il existe, d'accord. On a donc parlé, évidemment, du Hamas, de son idéologie. La charte du Hamas, elle est là aussi très claire. Est-ce que vous pouvez nous la résumer en quelques mots, parce qu'elle est assez longue.
Oui, alors évidemment, il y a une obsession antisémite qui file l'intégralité de cette charte, mais ça n'est pas la seule. On y trouve évidemment des références ou des clins d'œil indirects au nazisme. Je rappelle aussi que le nazisme a été fondamental dans la construction idéologique et même dans la fabrication et le financement de l'appareil secret des frères musulmans en Égypte, via notamment dans la charte du Hamas, la mention faite au protocole des sanctions.
Ouais.
Je pense que vos éditeurs savent de quoi il s'agit, ce fou antisémite qui a été le livre de chevet d'Adolf Hitler et qui n'est pas sans rapport avec la décision de la solution finale, c'est-à-dire l'extermination des Juifs d'Europe. Mais il y a aussi l'interdiction de déclarer un État palestinien, parce que les frères musulmans considéraient, le Hamas en particulier, que la terre de Palestine est un bien sacré de l'islam et que nul nationalisme n'a de droit sur cette terre. Elle concerne l'ensemble de la communauté des musulmans, c'est-à-dire l'Oumma. Et donc on voit bien l'opposition fondamentale et ontologique des frères musulmans et du Hamas à l'égard d'un mouvement nationaliste arabe, quel qu'il soit, et palestinien en particulier.
Michael Prasant, la vérité sur le Hamas et ses idiots utiles aux éditions de l'Observatoire. On va parler un peu des idiots utiles. Et sur ce livre-là, vous parlez clairement de l'antisémitisme en France, souvent sous couvert d'antisionisme, et notamment, et évidemment, vous ciblez particulièrement le parti de Jean-Luc Mélenchon. Le LFI, c'est un vraiment parti vraiment antisémite.
En tout cas, s'il ne l'est pas, il a tout fait pour qu'on puisse le penser. Oui, enfin, il y a évidemment un calcul politique derrière cette posture qui est que, voilà, Jean-Luc Mélenchon a manqué d'un certain nombre de voix pour passer le cap du second tour. Il part du principe que les banlieues ne votent pas, mais quand elles votent très puissamment pour LFI. Et donc l'idée, c'était de taper sur les Juifs pour faire s'inscrire sur les listes électorales cette population et comme ça gagner les voix qu'ils avaient manquées pour passer le second tour.
Et c'est uniquement ça. Il y en a qui disent que le parti est vraiment antisémite, c'est-à-dire que les gens qui le pratiquent, en tout cas qui sont dans ce parti-là, sont antisémites voilà quoi. Il y a pas vraiment de calcul électoral.
Oui, alors initialement il y a ce calcul électoral. Après, l'autre élément qu'il faut pointer, c'est le fait que à partir de la mort du Front de Gauche et de la constitution de LFI, il y a un certain nombre de jeunes gens qui sont venus à Mélenchon, que ce soit des antifas, des décoloniaux, etc. Et le seul point commun qu'il y avait entre ces jeunes gens, c'était la lutte antisioniste, entre guillemets, qui s'est enquistée dans l'extrême gauche depuis une quarantaine d'années et qui évidemment n'est rien d'autre que la reformulation d'un antisémitisme. Donc il y a évidemment, à travers, disons, le cache-sexe de l'antisionisme, un antisémitisme très virulent. Vous savez, je ne sais plus qui a dit que partout où il y a des infractions à la logique, il y a de l'antisémitisme. Mmh. C'est exactement le cas, c'est ce que j'essaie de mettre en exergue dans mon livre, montrer les impostures, les deux poids deux mesures concernant certains conflits. Parce que bon, ils n'ont pas protesté ni crié au génocide quand la France rasait Mossoul, par exemple, au lendemain des attentats du Bataclan et autres. Et il y a bien d'autres cas dans l'histoire ou dans l'actualité proche qui nous montrent que, évidemment, cette obsession antisioniste, pour ne pas dire antisémite, est évidemment une détestation fondamentale de l'État d'Israël et à travers lui un amalgame sans phare entre les Juifs ou qu'ils soient dans le monde et cet État d'Israël. Mais j'essaie d'expliquer bien d'autres choses, de montrer aussi des mécanismes qui ont permis de mettre le feu à la fois aux universités en Occident, pas seulement en France.
Je voulais en parler juste un peu avant. Je vous fais une question. En général, les gauches, les Juifs étaient plutôt de gauche. Est-ce que ça a changé? Quelles sont les raisons de ce revirement s'il a lieu?
Je crois que pour beaucoup de Juifs, et moi y compris, la ligne de fracture politique se situe sur la question justement de l'antisémitisme. Alors c'est vrai, beaucoup de Juifs étaient jusqu'alors à gauche, moi y compris, mais vous savez, les mots ont perdu beaucoup de leur sens. Il y a une dévitalisation et une instrumentalisation politique et idéologique du sens des mots. La gauche, la droite, l'extrême droite, le terme de génocide. Bref, on n'accorde plus aux mots le sens qu'ils ont, donc je comprends bien que les Juifs se sont trouvés perdus par ces cartes qui sont rebattues de manière extrême. Et bien sûr, aujourd'hui, la gauche n'est plus un refuge pour les Juifs, si tant est que la gauche ce soit LFI, et j'ai envie de dire aussi LFI et leurs alliés. Je déplore évidemment la constitution du NPF et puis la collaboration d'autres partis un peu plus respectables, qui étaient le Parti socialiste, voire le Parti communiste ou les écologistes, qui se sont alliés à ce parti qui provoque de graves dommages à la France et à la communauté juive en particulier.
Alors, vous l'avez évoqué, et beaucoup de gens s'en inquiètent sur ce qui se passe en France et dans le monde aussi, c'est la part des jeunes. Il y a énormément de jeunes qui vont devenir des adultes dans quelques années, qui sont très actifs sur la défense du Hamas. C'est quelque chose qui vous a étonné ?
C'est quelque chose qui... Alors, c'est toujours pareil, si vous voulez. À la fois, on s'attend à ce genre de choses, et en même temps, quand ça se produit, on est quand même stupéfait. J'avoue que j'ai été stupéfait par ce qui s'est passé à Columbia et dans d'autres universités américaines, par exemple. Peut-être un peu moins en France, mais vous mettez le doigt...
Sciences Po Strasbourg, en l'occurrence.
...qui est effectivement l'imprégnation de cet antisémitisme, avec tout ce que ça égrène, si vous voulez, de lieux communs d'un antisémitisme très bas de gamme, très très quatrième, enfin je sais pas comment, fin 19e, avec des lieux communs sur les Juifs et l'argent, voire même des vieilles rumeurs des Juifs empoisonneurs de puits. Enfin, il y a tout qui ressort dans cette génération. Et comme je le dis en introduction de mon livre, je pressentais quelque chose de cet ordre-là parce que j'ai travaillé de très longues années à interviewer notamment des rescapés de la Shoah et moi-même travailler sur la Shoah en tant que telle. Et j'étais très inquiet à l'idée de leur disparition parce que pour moi, les rescapés de la Shoah constituaient une sorte de garde-fou de liens charnels avec ce qui s'était passé durant la Shoah et la Seconde Guerre mondiale. Et je disais que leur... de liens avec cette histoire-là et qui n'aurait plus de connaissance ni d'empathie nécessairement dans le brouillard victimaire dans lequel nous résidons actuellement. Et je soupçonnais quelque chose de cet ordre-là.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que les gens qui manifestent sont des gens qui sont instruits. Et c'est des gens de Sciences Po qui ont Bac plus 3, Bac plus 4 et 5. Comment on peut tomber si bas ?
Écoutez, je vous le demande, il y a une conjonction de faits qui se sont produits, et à commencer d'ailleurs par un dénivellement du niveau général des étudiants, et Sciences Po et même Normale Sup n'en sont pas exemptes. Il y a aussi une idéologie de cet ordre-là qui est travaillée dans les livres scolaires, notamment en classe technique ou professionnelle au lycée, où il y a une forme de prédation idéologique via cette idéologie, une idéologie plus large, c'est-à-dire voilà, un peu anti-occidentale, avec des errements vers une forme d'antisémitisme aussi, que j'ai pu constater quand moi j'étais enseignant à l'éducation nationale, en faisant ces ouvrages, ça fait tomber des nues. Bref, il y a aussi, voilà, il y a tout un contexte, si vous voulez, d'ignorance, mais aussi de résurgence de l'antisémitisme, on en a déjà parlé, de comportement, et évidemment, on voit bien avec ce qui s'est passé très récemment dans les manifestations que ce qu'on appelait l'antiracisme a basculé dans une forme d'antisémitisme, donc tout ça étant lié, et il est beaucoup plus facile aussi pour les antisémites de pouvoir se rassurer en se disant qu'ils sont dans le bon camp, c'est-à-dire celui de l'antiracisme.
Alors, j'aurais une question corollaire, j'ai oublié de poser tout à l'heure. On a parlé des responsables du Hamas, on sait leur idéologie. Qu'en est-il des civils à Gaza, de la rue palestinienne ? Est-ce qu'elle cautionne ou est-ce qu'elle est plutôt contre ce qui se passe ?
C'est très difficile à dire. On a évidemment des signaux un peu contradictoires. D'une part, je rappelle qu'il y avait quand même beaucoup de civils dans l'attaque du 7 octobre qui se sont glissés, qui ont commis des exactions horribles. Je rappelle aussi que ça fait 20 ans maintenant que le Hamas est au pouvoir à Gaza et qu'il a mis à profit ces deux décennies pour biberonner sa population et notamment ses jeunes, c'est une population très jeune à la haine des Juifs et d'Israël de manière extrêmement violente. Donc tout ça laisse des traces, mais je rappelle également que les Palestiniens de Gaza qui ont voulu ont été mitraillés par le Hamas justement pour les empêcher de trouver un refuge, qu'il y avait eu des manifestations contre le Hamas à Gaza avant même le 7 octobre. Donc il est toujours très difficile de sonder cette population, on n'a pas les éléments pour le faire, mais vous savez, il y a aussi un autre aspect dont il faut prendre en considération, c'est le fait que à Gaza, ce sont des familles qui sont très nombreuses, et je pense pas que vous en trouverez une où il n'y a pas un père, un oncle, un frère qui, d'une manière ou d'une autre, travaille de manière directe ou indirecte pour le Hamas. Donc tout cet entrelacement ne favorise pas une forme, bien sûr, de liberté et encore moins de liberté d'expression. Donc, on ne sait pas trop quoi en penser, mais ce qui est sûr, c'est que le Hamas, après de très longs mois d'une guerre âpre, n'a pas renoncé aux armes, n'a pas capitulé et produit toujours, lors de la libération des otages, ces espèces de cérémonies obscènes qui ont notamment pour vocation de montrer à la fois au monde, mais surtout à la population gazaouie et palestinienne au sens le plus large, qu'ils sont toujours là, qu'ils ont d'une certaine manière gagné la guerre, tenu tête à l'Occident et à Israël. Et ça, évidemment, c'est fait pour rallier encore une fois un certain nombre de soutiens au sein de cette population.
Alors, dans la fin de votre livre, Michael Prazan, vous essayez de déconstruire l'accusation du génocide. Ce que fait Israël ne peut pas être qualifié de génocide juridiquement et moralement.
Je parlais de la dévitalisation du sens des mots. Aujourd'hui, le génocide, sa nouvelle acception, c'est au fond définissable au nombre de morts d'un conflit. Très bien, effectivement, on déplore tous un nombre de morts faramineux à Gaza, encore que les chiffres ne permettent pas complètement. Bien évidemment, mais en même temps, il ment aussi sur la part entre les membres du Hamas qui ont été tués au cours des combats ou autres, et puis des civils proprement dits. Mais enfin bon, il y a tout de penser quand même qu'il y a un très grand nombre de civils qui ont été tués. Mais le génocide, c'est pas ça. Le génocide, c'est vouloir exterminer toute ou partie d'une population, en ciblant évidemment principalement les civils. Et il ne me semble pas du tout que ce soit le cas de cette situation. Voilà, après, il y a évidemment des idiots utiles un peu partout dans le monde, et notamment à l'ONU.
Alors, deux questions avant de nous quitter sur ce livre, notamment. On a l'impression que, quand on lit votre livre, vous êtes un peu déçu, vous êtes un peu usé, vous ne croyez plus à une paix entre Israël et les Palestiniens. Il y a quelque chose chez vous qui a été cassé?
Disons que c'est un constat au long cours. Je rappelle qu'il y a eu 12 plans de paix entre Israël et les Palestiniens depuis 1947, des plans de paix qui étaient très généreux d'un point de vue territorial. Ces 12 plans de paix ont été acceptés par Israël et jamais par les Palestiniens, donc ça suscite quand même un sérieux doute sur la volonté d'en établir. Le constat général, c'est que la paix n'a jamais été plus éloignée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je ne crois pas du tout que ce soit le sentiment des Israéliens aujourd'hui, cette volonté de paix, et à juste raison, après ce qui s'est passé le 7 octobre, et on n'a pas d'interlocuteur palestinien pour la faire. Donc, si jamais il y a une paix, elle n'est certainement pas d'actualité, et je ne la vois pas à l'horizon. Elle avait une fenêtre qui était ouverte, notamment au moment des accords d'Oslo. Elle est refermée depuis maintenant longtemps et je n'en vois pas d'autres s'ouvrir. Donc, il faut peut-être commencer à imaginer d'autres solutions.
Alors, justement, c'était ma dernière question. C'est quoi la suite? Comment on peut imaginer la suite? Il faut continuer à négocier avec le Hamas pour la libération d'otages. Il faut accentuer l'annonce militaire et l'action militaire. Comment vous voyez la suite et de ce que Israël doit faire?
Le Hamas n'est en aucun cas un partenaire de paix. Ils n'ont absolument aucune intention de faire la paix. D'ailleurs, ils n'utilisent jamais le mot paix, mais ils utilisent le mot trêve. Partant du principe que, et c'est leur principale référence durant les croisades, la trêve de Ramla en 1192, contractée entre Richard Cœur de Lion et Saladin, a permis de se reposer, de se réarmer avant de repartir au combat. Et ils sont persuadés qu'il serait d'être une nouvelle croisade et qu'à l'instar des croisés, les Juifs finiront par être détruits ou par partir. Ils en sont convaincus, pour eux c'est inscrit dans leur lettre très particulière du Coran et de leur histoire et de leur...
Voilà, plus clairement, Michael Prazan, Plus clairement, si vous êtes à la place du Premier ministre israélien, qu'est-ce que vous dites ?
Alors, Dieu merci, je ne suis pas à la place du Premier ministre israélien.
On va faire la fiction.
Si vous me demandez une solution à ce conflit, je suis au regret de vous dire que je ne l'ai pas.
Ah, c'est insoluble ? Pour le moment.
En tout cas, on est dans une impasse, à mon avis, qui va durer longtemps, mais il faudra bien faire quelque chose de Gaza et des Gaza.
Alors, on va...
Pour faire la paix, il faut changer ce logiciel qui est aujourd'hui enquisté dans la mentalité frériste et palestinienne au sens le plus large. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui ne se résoudra pas sur une génération.
Ah ben non, ça nous, c'est assez important de le rappeler. Michael Prazan, la vérité sur le Hamas et ses idiots utiles aux élections de l'Observatoire. On peut vous demander si vous travaillez sur autre chose ?
Oui, enfin j'ai plusieurs projets en cours, mais pour l'instant c'est trop tôt pour que je puisse en parler. J'annoncerai simplement le fait que le 4 mai prochain sur Arte, en seconde partie de soirée, sera diffusé un petit portrait que j'ai réalisé de Steven Spielberg.
Ah, très bien, vous diversifiez. Je crois que vous serez présent aussi à une réunion contre le racisme, l'antisémitisme, bientôt à Paris, j'ai lu ça.
Demain, il y aura une grande soirée pour la République et contre l'islamisme, avec beaucoup d'intervenants de divers horizons politiques d'ailleurs. Nous attendons entre 4 et 5 000 personnes, donc voilà. Ce sera un grand événement.
Merci Michael Prazan, la vérité sur le Hamas et ses idiots utiles. Je vous remercie d'avoir accepté de répondre à mes questions et on se dit à très bientôt.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Au revoir.